Vous écoutez RTL.
Il est 19h. RTL Soir, Florence Cohen.
Et pour ce journal, Alexandre de Saint-Aignan. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Florence, bonsoir à tous.
RTL vous le révélait à 18h, il y a une Française parmi les blessés de l'attentat de Berlin.
Oui, le parquet antiterroriste français va être saisi et alors que l'enquête piétine, Angela Merkel temporise. La 380 toujours maillon faible d'Airbus, l'avionneur européen a enregistré une nouvelle commande mais toujours pas de très gros porteur. 20 000 euros en petite coupure, abandonnée sur le bord de la route, un trésor tombé du camion en Haute-Loire. Enfin, ce sera l'une des stars du réveillon. Nous rendrons en visite au Chapon de Bresse dans son habitat naturel.
Après ce journal, dans 10 minutes, l'actualité sort de la bouche des enfants. Le casque à vélo va être obligatoire justement pour les enfants. On leur demandera ce qu'ils en pensent. Et puis à 19h15, on refera le monde avec les polémistes.
RTL Soir.
Et d'abord, donc, cette étonnante découverte en Haute-Loire, des liasses de billets sur le bord de la route.
Oui, ce sont des agents du conseil départemental qui les ont trouvés hier. Deux sacs et une valise qui contenaient au total 20 000 euros, Thomas Proutot.
Oui, les quatre employés du conseil départemental travaillaient sur le bord de la RD 46 entre Retournac et Beauzac hier matin. C'est là qu'ils tombent sur ce magot, deux grosses liasses de billets dans des sachets en plastique montant 4 000 et 6 000 euros. Et ce n'est pas tout, ils découvrent un peu plus loin une valise frappée d'un logo mais impossible à ouvrir. Les employés sont honnêtes, ils décident de se rendre immédiatement chez les gendarmes. Les militaires reconnaissent alors le logo d'une société de transport de fonds. Ils contactent le responsable. C'est bien l'argent que transportait un de ces fourgons. Le scénario n'est pas banal. Après vérification, le gérant explique qu'une des portes était mal fermée et que l'argent a été éjecté du fourgon. Une fois ouverte, la valise se révèle contenir elle aussi 10 000 euros. Ce que l'histoire ne dit pas, c'est si d'autres sacs de billets ont été égarés dans cette mésaventure.
Le récit de Thomas Proutot pour RTL. Dans l'actualité également ce soir, la justice française ouvre une enquête après l'attentat du marché de Noël de Berlin.
Oui, RTL vous révélait l'information dès 18h, une jeune française fait partie des blessés. C'est pourquoi le parquet antiterroriste va être saisi. Trois jours après l'attaque, le principal suspect est toujours dans la nature, un demandeur d'asile tunisien de 24 ans. Ses empreintes digitales ont été retrouvées dans le camion qui a foncé dans la foule lundi soir, faisant 12 morts et des dizaines de blessés. La polémique gronde en Allemagne. Comment le terroriste a-t-il pu échapper aux enquêteurs? Malgré des dysfonctionnements évidents, Angela Merkel a tenté de rassurer l'opinion. Aujourd'hui, la chancelière se dit très fière de la réaction des Allemands après le drame.
J'ai confiance dans nos capacités à vraiment surmonter l'épreuve dans laquelle nous nous trouvons en ce moment, car nous avons des collaboratrices et des collaborateurs professionnels qui travaillent avec toute leur force à résoudre les problèmes posés par ces événements. Et je dois dire aussi qu'au cours de ces derniers jours, j'ai été très fière de constater avec quel calme la plus grande partie de la population a réagi.
La chancelière allemande Angela Merkel avec Blandine Milsan. Et dans ce contexte, et malgré le deuil, le marché de Noël de Berlin a rouvert ce matin.
Un peu plus de 48 heures après l'attentat qui a fait 12 morts et des dizaines de blessés, les passants et les touristes reviennent petit à petit sur les lieux du drame. Samuel Goschmidt, vous êtes sur place pour RTL. L'ambiance était forcément très particulière aujourd'hui.
Oui, sans musique, les commerçants ont choisi de l'éteindre. Certains d'ailleurs ont beaucoup de mal à reprendre le travail. Jusqu'à cette fin d'après-midi, on a aussi vu encore les camions installer des barrages en béton. Et les touristes y vont sur la pointe des pieds, il y avait des Français parmi eux.
On voit des gros blocs de béton qui viennent d'être déposés aujourd'hui, de manière à ce que les gens puissent fréquenter le marché Noël à nouveau et dans un sentiment de paix et de sécurité.
On sent qu'il y a des recueillements, les Berlinois sont assez touchés, mais après, ça ne change pas grand-chose dans la ville, il n'y a pas beaucoup de changements.
On est allé sur Unter den Linden, sur la porte de Brandebourg, on a trouvé un calme. On sent qu'il y a une certaine présence policière quand même qui est là, mais ça demeure très discret, la ville est apaisée.
Une ambiance et des pratiques qui surprennent d'ailleurs les visiteurs d'outre-Rhin.
Beaucoup moins de mesures de sécurité qu'à Paris. On est très surpris par ça. Vous rentrez dans les musées, il n'y a aucun contrôle. Il ne s'agit pas du tout de donner des leçons. Nous sommes surpris par la différence entre les deux capitales.
Et rien que la présence de policiers patrouillant avec des armes automatiques n'est pas dans les habitudes allemandes.
Samuel Goldschmidt, envoyé spécial de RTL à Berlin. Il est 19h05 sur RTL. Dans un instant, encore une grosse commande pour Airbus, mais toujours pas d'A380.
RTL. Elle
soir avec Florence Cohen
et Alexandre de Saint-Aignan pour ce journal de 19h. C'est une nouvelle déception pour le programme A380 d'Airbus.
Oui, l'Iran a confirmé sa commande aujourd'hui auprès de l'avionneur, une centaine d'appareils pour un montant de près de 20 milliards de dollars. Alors c'est une bonne nouvelle, mais aucun A380, le fleuron européen. Forcément, Pierre Julien, pour Airbus, c'est la soupe à la grimace.
Oui, dans la musette, un 100 appareils des familles 320, 330, 350, c'est toujours bon à prendre car ça représente en gros 8 ans de travail. Mais voilà, Iranair n'a pas craqué pour le très gros porteur. Airbus, qui espérait en placer 12, s'est vu répondre que l'aéroport de Téhéran n'était pas équipé pour accueillir les 80 mètres d'envergure et les 575 tonnes du géant des airs. Le constructeur européen tente de se convaincre que ce n'est que partie remise dans l'optique d'ici quelques années d'un nouveau terminal adapté. Cependant, il faut bien remarquer que l'A380 connaît un sérieux trou d'air. La preuve, en juillet dernier au salon de Farnborough, où la direction d'Airbus a annoncé la réduction de sa production qui passera en 2018 à un seul exemplaire par mois. Aujourd'hui, on en est à 2,5. Le double pont avait atteint juste le seuil de rentabilité. Maintenant, le programme lancé en 2000 repasse dans le rouge. Au siège de Toulouse, on ne veut pourtant pas baisser les bras avec l'espoir de vendre encore quelques dizaines de super Airbus plus performants car remotorisés, principalement aux clients de toujours, la célèbre compagnie Emirates, qui en possède 88 et attend 54 supplémentaires déjà commandés.
Merci Pierre-Julien. C'est l'un des arguments forts de la droite pour 2017, la suppression des 35 heures.
Oui, et pourtant, selon un rapport du ministère du Travail, les Français travaillent déjà en moyenne plus de 39 heures par semaine. Il ne serait donc pas forcément nécessaire de modifier la durée officielle du temps de travail. Pourtant, l'équipe de François Fillon n'en démord pas. C'est une mesure indispensable pour son porte-parole Thierry Solaire.
François Fillon, qu'est-ce qu'il constate ? Il constate qu'il faut qu'on travaille tous un tout petit peu plus parce qu'on a un système économique aujourd'hui qui ne fonctionne pas et on a un chômage de masse. Vous voyez bien l'immense décalage aujourd'hui des situations entre un travailleur indépendant et puis le salarié. Il y a des disparités absolument considérables de réalité professionnelle et de temps de travail. Il y a des gens qui travaillent 70 à 80 heures par semaine. Et puis vous avez des fonctionnaires qui travaillent beaucoup plus que 35 heures, mais qui ne sont jamais payés de leurs heures supplémentaires. Et puis vous avez, notamment dans la fonction publique territoriale, beaucoup de collectivités où c'est les 32 heures qui sont encore la réalité du terrain et du quotidien. Les 35 heures, ça a désorganisé les choses, ça n'est pas une solution qui fonctionne. On a tous besoin de travailler un tout petit peu plus pour faire que le pays redécolle. Je crois que c'est un beau projet collectif qu'on peut avoir.
Thierry Solaire avec Caroline N pour RTL. Du côté des socialistes, l'après-midi a été mouvementé pour Manuel Valls. L'ancien Premier ministre s'est fait enfariner alors qu'il était en visite à Strasbourg dans le cadre de sa campagne pour la primaire de la gauche. 49-3, on n'oublie pas, aurait lancé l'enfarineur. Manuel Valls aurait réagi plutôt calmement, parlant même d'un bon présage.
Eh ben, la cloche de l'église du village de Boissette en Seine-et-Marne ne sonnera plus la nuit.
Ça faisait 10 ans qu'un couple tentait de la faire taire pour préserver son sommeil. Un combat judiciaire mené contre tous les autres habitants de la commune. Du coup, la cloche était totalement muette depuis 2 ans. Seul ce couple semblait dérangé par la cloche qui est marquée chaque demi-heure. Il a fini par avoir gain de cause au prix d'une guerre sans merci. Vincent Serrano, elle va de nouveau sonner, mais seulement le jour.
Oui, rendez-vous compte, Boissette, c'est 440 habitants et seuls 3 voulaient la faire taire la nuit. Le couple de plaignants et une amie voisine. Floriane habite elle aussi au pied de ce clocher. Elle s'impatiente de l'écouter à nouveau sonner.
Bah parce que ça fait partie des bruits du village. Je suis arrivée là il y a 32 ans, l'église sonnait. Tout le monde voulait garder ses cloches du village. Une personne peut arriver et dire « on n'en veut pas ». Quand ils ont acheté la maison, les cloches sonnaient. C'est comme d'acheter une maison près d'un train. Si on n'a pas envie d'entendre le train, il faut l'acheter ailleurs.
Par souci d'apaisement, Bernard Fabre, le maire de la ville, a coupé court à cette guerre de clochers. Il sonnera le jour, mais pas la nuit.
Ah, ils adorent cette cloche. Ça fait partie de leur quotidien, ça fait partie de leur rythme de vie. Et tout ça berce notre musique quotidienne. Il n'y a pas de guerre, parce qu'il n'y a pas de victoire non plus. Il y a simplement une normalisation, un attachement sentimental à la chose, à nos sonneries, voilà. Et on aime bien ça, on aime bien ces valeurs essentielles.
Le couple réfractaire pense maintenant à déménager, car si la cloche ne sonne plus la nuit, les tensions qu'elle a soulevées se font toujours entendre et continuent de gâcher leur sommeil.
Merci, reportage de Vincent Serrano. J-2 avant le repas du réveillon de Noël, l'occasion de manger du foie gras, du saumon, mais aussi du chapon, et notamment le fameux chapon de Bresse.
Oui, le chapon ou la poularde des volailles élevées traditionnellement dans une partie de l'Ain et de la Saône-et-Loire. 170 producteurs y travaillent toute l'année. Frédéric Perruche, vous en avez rencontré l'un d'entre eux.
Chaque année, Jean-Michel Cibel produit 4000 volailles de Bresse, poularde et autres chapons, des bêtes qui ont la spécificité d'être élevées en plein air pendant de longs mois, le prix de l'excellence.
Les volailles rentrent dans leur poulailler pour dormir, mais la journée, ils sont dehors, en totale liberté. C'est 10 mètres carrés minimum par volaille. C'est une grande aire. C'est pas le Club Med, mais pas loin. Et ils ont tout loisir de grandir et de grandir doucement.
Le grand air, couplé à une nourriture naturelle, permet d'élever des champions, des volailles aux qualités gustatives exceptionnelles, servies chez les plus grands restaurateurs, Georges Blanc ou Paul Bocuse.
C'est un mélange de tout. C'est tendre, c'est ferme à la fois. Ça a une saveur différente qui aiguise les palais. Voilà. En volaille, c'est le top. Pour moi, c'est le summum, c'est la Formule 1 de la volaille. Voilà.
Mais la fierté de Jean-Michel Cybelle, c'est de savoir que ces volailles d'exception seront dégustées en famille pour Noël.
Notre plus grande fierté, c'est de savoir que le soir de Noël, le soir du réveillon, le jour de Noël, il y a des familles entières qui vont déguster nos produits, qui vont se régaler avec ça et qui vont passer un beau moment avec ça. Donc ça n'a pas de prix, ça. On est fiers de ça, nous.
Autre fierté de l'éleveur, il a remporté cette année deux des quatre plus prestigieux concours de volailles, les Glorieuses de Bresse.
Le reportage de Frédéric Perruche pour RTL. 5 ans de plus pour Hugo Lloris. À Tottenham, le gardien et capitaine de l'équipe de France de football a prolongé aujourd'hui son contrat avec le club anglais jusqu'en 2022. Hugo Lloris est arrivé chez les Spurs en 2012 après avoir quitté l'Olympique Lyonnais. Un mot de rugby en top 14, match avancé de la 14e journée. Ce soir, Grenoble-Toulouse avec en jeu pour les Grenoblois le maintien. Alors qu'en face, une victoire permettra aux Toulousains de réintégrer les 6 premiers du classement en vue de la qualification pour la Coupe d'Europe.
Merci, c'était le journal d'Alexandre de Saint-Aignan.
Vous écoutez RTL.